VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 31 mai 2023. Au Sénégal, ouverture du dialogue avec une partie de l'opposition à la veille du verdict au procès de l'opposant Ousmane Sonko. En Centrafrique, l'opposition dit non après la décision du président Touadéra d'organiser un référendum constitutionnel.
En tant que démocrate, nous allons tout faire pour qu'il n'atteigne pas son objectif, à savoir donc faire voter une nouvelle constitution pour rester à vie président de la République africaine. Ça ne passera pas.
La réaction de Gaston Mandaka Ngerekata, opposant centrafricain, à suivre dans la partie magazine. Au Soudan, l'armée suspend les négociations de cesser le feu avec les paramilitaires. Au Zimbabwe, les élections générales ont été fixées au 23 août prochain. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants est appelée aujourd'hui à voter l'accord sur la dette. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Direction le Sénégal, le président Macky Sall a lancé le dialogue national aujourd'hui au Palais de la République avec les différentes composantes de la société sénégalaise. Cependant, une frange de l'opposition et de la société civile n'a pas répondu à l'appel de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
C'est dans un contexte très tendu que débute le dialogue national initié par le président Macky Sall. Si les membres de la mouvance présidentielle sont d'avis que le chef de l'État sénégalais veut trouver des points de convergence avec les forces vives de la nation pour l'intérêt supérieur du pays, de l'autre côté, des membres de l'opposition, dont Ousmane Sonko, jugent que ce dialogue n'est qu'une ruse supplémentaire du président Macky Sall pour éliminer ses adversaires politiques. Ce qui, d'après eux, justifie amplement leur refus de participer à cette rencontre. Un refus qui n'est pas partagé par certains opposants, parmi lesquels Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, qui est l'un des leaders de l'opposition, a décidé de répondre à l'invitation du président Sall. Le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, sera également au palais pour participer au dialogue. Un dialogue contre un autre, car les membres du mouvement des forces vives de la nation F24 lancent aussi leur concertation nationale avec des entités de l'opposition et de la société civile. Une manifestation non autorisée par le préfet de Dakar, une interdiction qui risque d'augmenter les tensions déjà vives depuis lundi et le blocus du domicile de l'opposant Ousmane Sonko qui est encerclé par la police. Une situation illégale d'après ses avocats. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Le gouvernement mauritanien a coupé aujourd'hui le réseau Internet sur les téléphones portables au lendemain de manifestations liées au décès d'un jeune mauritanien à la suite d'une brève garde à vue dans un commissariat de police. Une autopsie et une enquête sont en cours pour déterminer les circonstances du décès, a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Le calme est revenu dans les villes qui ont connu samedi et dimanche l'épilogue des élections législatives. Le parti au pouvoir raflé 107 sièges sur 176 un an avant la présidentielle. L'armée soudanaise a suspendu les négociations menées à Jeddah sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Elle accuse les paramilitaires de ne pas respecter la trêve. Yacouba Ouedraogo.
Un responsable soudanais soutient que l'armée a suspendu sa participation aux négociations parce que les rebelles n'ont jamais appliqué un des points de l'accord de la trêve temporaire qui prévoit leur retrait des hôpitaux et des maisons. Depuis le début de la guerre, le syndicat des médecins dénonce l'occupation de plusieurs hôpitaux par des belligérants. D'après le syndicat, les trois quarts des hôpitaux dans les zones de combat sont hors d'usage et les autres doivent composer avec des réserves quasiment vides et des générateurs à l'arrêt faute de carburant. À Khartoum, de nombreux habitants racontent avoir été chassés de leur maison par des combattants des forces de soutien rapide. D'autres disent avoir appris par leurs voisins, après avoir fui, que des paramilitaires se sont installés chez eux. Aucun couloir n'a été dégagé pour permettre le passage de l'aide humanitaire dont ont besoin 25 millions de Soudanais selon l'ONU. Le général Abdel Fattah al-Burhan a appelé mardi ses troupes à se battre jusqu'à la victoire. Les combats sont les plus violents au Darfour, région frontalière du Tchad, dont certaines zones sont sans électricité ni téléphone.
La suspension des discussions en Arabie Saoudite entre belligérants de la crise au Soudan ne doit pas décourager les efforts de médiation, a estimé aujourd'hui l'Union africaine qui entend proposer prochainement un dialogue politique élargi à l'ensemble de la société soudanaise. Ce processus devra inclure tous les secteurs de la société soudanaise et être le rassemblement d'une nation sans référence à de quelconque divergence idéologique ou autre, a expliqué Mohamed El Hassan Lebat, le chef de cabinet du président de la Commission mission de l'Union africaine et porte-parole de l'UA sur la crise soudanaise. Au Zimbabwe, les élections générales auront lieu le 23 août, selon le journal officiel du gouvernement, publié ce mercredi. Le point avec Eric Manirakiza.
Le président Emmerson Mnangagwa fixe au 23 août 2023 le jour de l'élection présidentielle, de l'élection des membres de l'Assemblée nationale et de l'élection des conseillers locaux. Le parti de Nelson Chamisa, la coalition de citoyens pour le changement, a accusé le parti au pouvoir de réprimer les opposants. Des réunions de l'opposition ont été entravées et des responsables, y compris des députés, ont été arrêtés sous prétexte de réunions illégales. Le chef de l'opposition a relevé de graves anomalies dans les listes électorales ainsi que de nombreuses erreurs et omissions dans l'inscription des électeurs. De hauts responsables de l'opposition ont affirmé avoir été rayés des listes. Le groupe local de défense des droits, Team Pachedu, a dénoncé des irrégularités, notamment dans le découpage des circonscriptions, certaines coordonnées géographiques correspondant à des lieux situés en Antarctique.
La justice tunisienne a ouvert une nouvelle enquête sur des personnalités politiques dont les principaux opposants au président Kais Saied, soupçonnés de conspiration contre la sécurité de l'État, a déclaré l'avocat de l'un d'entre eux. Parmi les 20 personnes accusées dans cette nouvelle affaire figure Rached Ghannouchi, déjà en prison, l'ancien premier ministre Youssef Chahed et l'ancienne chef de cabinet de M. Saied, Nadia Kacha. Les défenseurs des droits humains accusent le chef de l'État tunisien de porter atteinte à l'indépendance de la justice.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les élus américains sont appelés à se prononcer aujourd'hui sur l'accord sur le relèvement du plafond de la dette. Le texte est arrivé devant la Chambre des représentants qui tient sa plénière, mais le vote s'annonce houleux. John Lindon.
L'accord conclu entre le président démocrate Joe Biden et le chef des républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, doit être validé par les élus dont certains ont déjà affiché une nette opposition. La commission du règlement de la Chambre des représentants a donné mardi une première indication de la tendance en validant le projet de loi par 7-6. 2 républicains et 4 démocrates se sont prononcés contre. C'est désormais aux élus de la Chambre, à majorité républicaine, de se prononcer en plénière ce mercredi, avant que le Sénat, à majorité démocrate, ne le fasse à son tour. Mardi, Joe Biden a invité les élus à adopter cette législation, fruit du compromis qu'il a lui-même négocié. Le Congrès a gagné quelques jours de répit. Les caisses du pays ne devraient se retrouver à sec que le 5 juin et non le 1er, selon une estimation donnée vendredi par la secrétaire au Trésor, Janet Yellen.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé aujourd'hui à Pékin à une meilleure communication avec Washington après un incident entre des avions militaires américains et chinois qu'il a imputé au pilote chinois. Je pense que cela ne fait que souligner pourquoi il est important que nous ayons des lignes de communication régulières ouvertes, y compris entre nos ministres de la Défense, a déclaré M. Blinken à la presse lors d'une visite en Suède. Selon les États-Unis, la Chine a décliné des discussions avec le ministre de la Défense, Lloyd Austin. Le gouvernement chinois a accusé les États-Unis de provocation après l'incident survenu entre un avion de chasse chinois et un appareil de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine. Les pays de l'OTAN organisent depuis samedi en Finlande des exercices terrestres les plus importants depuis que le pays est devenu le 31e membre de l'Alliance en avril. Près de 1000 membres des forces alliées des États-Unis, de Grande-Bretagne et de Norvège ainsi que de la Suède voisine se sont joints à quelques 6 500 soldats finlandais et 1 000 000 de véhicules pour l'exercice conjoint nommé Northern Forest qui se déroule du 27 mai au 2 juin. Il s'agit du plus grand exercice moderne de forces terrestres. Il est organisé à Rovajärvi, dans le nord du pays, à 2 heures de route de la frontière russe et au-dessus du cercle polaire Arctique. L'Allemagne a décidé de fermer 4 des 5 consulats russes présents sur son sol en représailles aux restrictions imposées par Moscou à sa représentation diplomatique en Russie, a annoncé aujourd'hui le ministère allemand des Affaires étrangères. Seul le 5e consulat et l'ambassade russe à Berlin pourront ainsi continuer à fonctionner. Au Pakistan, nouvelle comparution en justice aujourd'hui pour l'ex-premier ministre Imran Khan. Un tribunal d'Islamabad et une cour spéciale anticorruption a accordé la liberté sous caution à M. Khan. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Mfa.
La Gambie, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Sierra Leone perdent ensemble 2,3 milliards de dollars par an à cause de la pêche illégale, a estimé Amnesty International dans un rapport. En Gambie, trop de poissons pêchés servent à nourrir d'autres poissons et des animaux d'élevage à l'étranger. Par ailleurs, la surpêche nuit à l'environnement et met à mal les moyens de subsistance de la population locale, selon Amnesty. Le ministre burkinabé en charge de l'économie et la représentante résidente de la Banque mondiale Burkina Faso ont signé lundi à Ouagadougou 3 accords de prêt d'une enveloppe globale de 450 millions de dollars. Le premier accord vise à soutenir les déplacés internes, le second à appuyer l'entrepreneuriat, le développement des compétences et l'adoption technologique, et le troisième concerne la mise en œuvre d'un projet de résilience et de compétitivité de l'élevage. Les pays en développement sans littoral sont encore marginalisés dans le commerce mondial en raison de la longue distance qui les sépare des mers et des difficultés de transit, a déclaré lundi le ministre adjoint de l'Agriculture du Botswana. C'était lors d'une réunion régionale des Nations Unies en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 qui s'est tenue au Botswana.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
On commence avec du football. Première convocation pour Aoua avec l'Algérie.
Le milieu offensif de l'Olympique lyonnais Hossein Aouar, qui compte une sélection en équipe de France en amical, a été convoqué pour la première fois par l'Algérie après avoir changé de nationalité sportive, a annoncé la fédération algérienne FAF. Aouar, 24 ans. Fait partie d'un groupe de joueurs convoqués par l'Algérie pour le match contre l'Ouganda le 18 juin dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Une rencontre amicale 2 jours plus tard contre la Tunisie selon la liste rendue publique par la FAF tard mardi. Dans une vidéo diffusée par la FAF le 16 mars, Aouar avait annoncé sa décision de représenter désormais les Fenech. Il affirmait que l'idée lui trottait dans la tête depuis très longtemps et qu'il s'était finalement décidé après avoir discuté avec le patron de la FAF.
La France contre l'Allemagne en amical, ce sera le 12 septembre à Dortmund.
Tout à fait, l'équipe de France de Didier Deschamps se rendra le mardi 12 septembre à Dortmund pour défier la Mannschaft de Hansi Flick en match amical. Moins d'un an avant l'Euro organisé en Allemagne, a annoncé mardi la Fédération française de football. La rencontre prévue au Signal Iduna Park, le stade habituel du Borussia Dortmund, interviendra 5 jours après la réception de la République d'Irlande le 7 septembre. Au Parc des Princes, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024. La France et l'Allemagne se sont affrontées pour la dernière fois le 15 juin 2021 à Munich, lors du précédent championnat d'Europe. Les Bleus l'avaient emporté 1-0 en ouverture du premier jour.
Ligue Europa, Mourinho estime que l'AS Rome mérite cette finale.
L'entraîneur de l'AS Rome, José Mourinho, a estimé mardi avant la finale de la Ligue Europa contre le Séville FC à Budapest que son club mérite cette finale avant de préciser que Paulo Dybala sera apte pour jouer entre 20 et 30 minutes. Interrogé sur son avenir, le coach portugais a affirmé qu'il n'avait aucun contact avec d'autres clubs pour le moment.
Finale NBA, Denver après tant d'attentes, Miami contre toute attente.
Ah oui, inédite et intrigante, la finale de la NBA opposera à partir de jeudi les Nuggets, guidés par la montagne Nikola Jokic pour leur première à ce stade, au Heat du volcan Jimmy Butler, en quête d'un 4e titre jamais encore remporté par une tête de série numéro 8. Denver aura attendu la 47e saison de son histoire pour s'offrir l'opportunité d'un sacre. Et son entraîneur Michael Malone n'a pas manqué de souligner l'importance de l'instant. Après 10 jours sans jouer, le collectif huilé des Nuggets, certes bien reposé, pourrait pâtir d'un manque de rythme par rapport à celui du hit porté par un élan pouvant confiner à l'euphorie malgré une fatigue légitime. Suspense donc. Denver recevra 4 fois si cette finale nécessite 7 matchs. Or, Miami ne s'y est plus imposé depuis 2016.
Page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Villon de retour avec vous pour le dossier du jour. Au Nigeria, le tout nouveau président Bola Ahmed Tinubu a sémé la panique au sein de la population. Dans son discours d'investiture lundi, il a annoncé la fin des subventions sur le carburant, entraînant une ruée vers les stations d'essence. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Lundi, pendant son investiture, le nouveau président Bola Ahmed Tinubu a annoncé la fin des subventions sur le carburant. Il n'a donné aucun calendrier, nul plus de détails, provoquant la panique dans le pays. Les Nigériens se sont précipités vers les stations-service pour s'approvisionner en carburant et faire des réserves. Prince Chidi manque de carburant pour son taxi.
S'il avait un plan pour supprimer la subvention sur le carburant, il devait d'abord commencer à travailler et faire les choses à l'amiable au lieu de faire une telle annonce. Maintenant, les gens ont caché le carburant pour spéculer. Maintenant, regardez, mon véhicule n'a pas d'essence.
Dans certains États, comme Lagos, la capitale économique, le prix du litre d'essence a doublé, voire triplé, jusqu'à 600 naira, soit 1,30 dollars le litre. Lundi matin, avant le discours de Bola Tinubu, le litre d'essence s'est vendu à 185 naira, le prix officiel. La compagnie pétrolière publique nigérienne a pourtant assuré qu'elle disposait de réserves suffisantes en carburant. Mais cela n'a pas calmé les esprits. Michael Staton est chauffeur de la compagnie de transport Uber.
Au cours des 2 derniers mois, ça a marché bien pour acheter le carburant. Mais dès qu'il a prononcé ce discours disant que la subvention n'existe plus, toutes les stations-service ont commencé à fermer. En fait, c'est un de mes amis qui m'a appelé hier pour me demander où est-ce que j'étais. J'ai répondu à la maison. Alors, il a insisté pour que j'aille prendre de l'essence. J'ai dû quitter ma maison à 19h.
La suppression des subventions sur le carburant était une des promesses de campagne de Bola Tinubu. Mais les économistes affirment que la suppression de ces subventions va entraîner une hausse des coûts de la vie, le transport, les coûts de production et les prix des commodités. Awa Mustafa, économiste et expert en développement.
The same debate and every time.
C'est le même débat et à chaque fois avec le même impact. Vous supprimez les subventions d'un côté, vous augmentez le coût de la vie de l'autre, vous augmentez l'inflation, les emplois sont perdus et vous créez des pénuries dans d'autres aspects de la vie et nous revenons à zéro.
Le Nigeria est le 2e producteur de pétrole d'Afrique derrière l'Angola, mais importe plus de 90% de ses besoins en carburant en raison de son incapacité à raffiner ses produits pétroliers. Le bureau du nouveau président invite le public à cesser la panique car la subvention ne sera pas supprimée avant la fin du mois de juin, ce qui n'a pas rassuré non plus. Le Congrès des syndicats du Nigeria a déjà rejeté la suppression des subventions sur le carburant annoncée par le président Bola Tinubu et réclame des consultations sur le sujet avant toute décision. La suppression des subventions sur le carburant est un sujet tabou au Nigeria. Plusieurs présidents avant Bola Tinubu ont déjà essayé, mais ont dû reculer face à la colère des Nigériens. Cette annonce est comme un ballon-sonde, mais servira aussi de premier test pour le tout nouveau président. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Centrafrique, la date du référendum sur la nouvelle constitution est fixée au 30 juillet 2023. L'annonce a été faite hier par le président Faustin Archange Touadéra, qui va ainsi briguer un troisième mandat. Félix Yepassi Zembrou a recueilli la réaction du professeur Gaston Mandata Ngerekata, opposant centrafricain résident aux États-Unis.
En tout cas, je suis personnellement choqué de ce que M. Touadéra, par deux fois,
a juré sur la constitution du 30 mars 2016, par la voie de laquelle il est au pouvoir, de ne pas toucher à cette constitution. Or, nous avons constaté que depuis 2020-2021, il a, par étapes, cherché donc à mettre fin donc à cette constitution. Il y a quelques mois, il avait, de manière tout à fait illégale, anticonstitutionnelle, démis de leur fonction deux juges de la Cour constitutionnelle. Il a donc commis un parjure. Aujourd'hui, en prenant cette décision de changer la constitution, il a fait un autre pas très grave vers la mort de la démocratie en République centrafricaine. Et donc, en tant que démocrate, nous allons tout faire pour qu'il n'atteigne pas son objectif, à savoir faire voter une nouvelle constitution pour rester à vie président de la République centrafricaine. Ça ne passera pas.
La date est connue, celle du 30 juillet. En tant que démocrate, quelle action entreprendrez-vous en vue de barrer la route à cette décision?
En tout cas, les articles 28 et 29 de cette constitution qui est en vigueur en ce moment nous donnent le devoir à chaque citoyen centrafricain de résister. Par tous les moyens, nous allons résister pour que M. Poadera n'aille pas jusqu'à la fin de son obsession de rester définitivement au pouvoir.
Cette résistance, comment va-t-elle se manifester?
Cette résistance est multiforme et dépend de chacun. Vous verrez, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous allons vous montrer que la population africaine n'est pas du tout d'accord avec cette décision-là et que nous allons résister par tous les moyens légaux. Nous allons les utiliser, que ce soit sur le sol sud-africain, que dans la diaspora, les réactions auront lieu et nous allons mettre fin donc à ce projet.
Le délai, c'est court, hein, le 30 juillet n'est pas loin. Vous pensez disposer suffisamment de temps pour mener des actions en vue de contrecarrer cette mesure relative à la tenue du référendum?
Vous savez, je ne vais pas évoquer ici les raisons techniques qui font que cette date-là est une date utopique. Vous savez, juillet, nous sommes en pleine saison des pluies. Le pays ne dispose pas d'infrastructures routières pour permettre le déplacement à l'intérieur, n'est-ce pas, du pays, surtout pendant cette période-là où il pleut énormément. Deuxièmement, nous savons que l'ANE, c'est-à-dire l'Autorité nationale des élections, n'a pas renouvelé la liste électorale. Et donc, sur quelle liste électorale ils vont pouvoir donc travailler pour ce référendum? Troisièmement, il y a les questions financières. Donc, c'est à Toadera, en fait, de nous dire comment, par quel miracle il va pouvoir faire organiser un référendum qui ne soit pas contesté par tout le monde. Je suis optimiste. Ce référendum n'aura pas lieu.
C'était le professeur Gaston Mandata Ngerekata, opposant centrafricain résident ici aux États-Unis.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
Dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC, un dialogue entre groupes armés locaux et le gouvernement provincial se tient à Arou, chef-lieu du territoire du même nom depuis hier mardi. Le gouvernement et la population souhaitent que les chefs de guerre optent pour la démobilisation afin de donner une chance à la paix dans cette province. Un reportage de notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Les milices FRPI, CODECO, FPIC et MAPI prennent part à ces discussions qui se tiennent dans la ville de Arou. Cette initiative du gouvernement militaire qui gère cette province est saluée par l'archevêque du diocèse anglican de Arou, Monseigneur André Georges, l'un des participants.
Quand il y a une rencontre comme ça où il y a l'opportunité, que les gens viennent ensemble s'asseoir pour discuter, échanger. Pour moi, ça, c'est vraiment le salut pour cette province. Que nous puissions réellement profiter de ces assises pour nous décharger de tout ce que nous faisions, pour devenir les ingénieurs qui doivent bâtir notre province.
Ce dialogue a débuté mardi entre le gouvernement provincial et les milices locales, avec une participation des leaders religieux, des notables et la société civile. Corneille Aloma est membre de la société civile Force Vive de l'Ituri.
Nous croyons fermement qu'à l'état des autres dialogues précédents, celui-ci qui se déroule à Arou apportera finalement la solution d'une paix durable durable, effective. Cela à travers la réconciliation du cœur et l'unité des compatriotes se trouvant au sein des divers groupes armés actifs en Ituri.
Jean-Marc Audrou, l'un des représentants des groupes armés, s'est montré optimiste dès les premiers jours des discussions et s'est dit prêt à travailler pour la paix.
Premièrement, je remercie le chef de l'État, le gouvernement provincial et toutes les autorités qui ont permis que ces assises se tiennent ici à Arou. Le seul message que j'ai, c'est celui de la paix pour que les gens ne s'entretuent plus. Je dois déposer cette arme que je tiens aujourd'hui afin qu'elle ne me serve plus à tuer mes compatriotes.
L'attente du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboy en Kachama, est qu'à lucide de ces assises, tous ces miliciens acceptent de suivre le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion, sinon ils seront farouchement combattus par le FRDC.
Aujourd'hui, nous avons envoyé, n'est-ce pas, ces groupes armés vers Arou et ils vont parler entre eux. Nous sommes en train de les sensibiliser. Et donc, qu'est-ce qu'ils devront faire? Ils devront aller au PDDSS. Mais s'ils ne veulent pas se démobiliser, il y a des opérations. Nous allons continuer avec la neutralisation. Et finalement, il y a aussi la justice, surtout pour les auteurs intellectuels.
Ces assises avaient débuté le 26 mai dernier par les travaux préliminaires avec les groupes armés locaux. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
L'Afrique du Sud est réputée pour sa production de vin, mais pas nécessairement d'huile d'olive, alors qu'une partie de sa production se trouve au Cap, où le climat méditerranéen est idéal pour la culture des olives. Aujourd'hui, les producteurs sud-africains se lancent à l'assaut des plus grands marchés et reçoivent des éloges pour la qualité de leurs produits. Les détails avec Thierry Kaoré.
Sur un paysage de collines douces de la région agricole du Cap, la récolte d'olives bat son plein. Des travailleurs saisonniers s'attellent pour ramener la matière première destinée à la fabrication de l'huile d'olive vers l'usine de transformation. L'huile d'olive n'était pas très consommée en Afrique du Sud auparavant, mais aujourd'hui, elle fait partie des huiles les plus prisées du pays. Christophe Dehos est un chef cuisinier français.
Je pense qu'il est devenu très à la mode dans les restaurants d'avoir de l'huile d'olive avec du pain et de le tremper. Je pense que c'est ce que font les Italiens, avec un peu de balsamique ou non. C'est vraiment devenu très à la mode et c'est délicieux. Vous pouvez en verser sur du fromage de chèvre frais en été, lorsque c'est la saison.
Pour Christophe Dehos, installé en Afrique du Sud depuis 30 ans, l'huile d'olive produite localement est encore de meilleure qualité.
Je n'utilise que de l'huile d'olive locale. Je n'utilise pas d'huile d'olive importée. La qualité de l'huile d'olive que nous avons localement est vraiment bonne. Elle est très impressionnante. Et pourquoi irais-je importer ou utiliser de l'huile importée venant de l'autre côté du monde?
Si l'huile d'olive reste néanmoins un produit de luxe pour une majorité de Sud-Africains, les producteurs observent depuis quelques années une augmentation incontestable de la demande locale en lien avec la recherche d'une alimentation plus saine, nous dit Gerard Van, gérant d'un domaine à Stellenbosch.
Effectivement, plus le régime alimentaire évolue vers une alimentation plus saine, plus les gens préfèrent les huiles de fruits aux huiles de graines. Un mode de vie plus sain augmente donc la demande d'huile d'olive extra vierge et d'olive. Les olives noires Kalamata, les olives de table à déguster en collation, c'est excellent.
Les premières olives ont été cultivées en Afrique du Sud au début du XXe siècle par un immigré italien, Fernando Costa. Aujourd'hui, plusieurs hectares sont destinés à la production d'olives dans le pays, ce qui contribue à la lutte contre le chômage avec l'emploi des travailleurs saisonniers.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.